19h le mercredi sur Radio Présence avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent?
Ça va très bien, il faut passer à travers ces petits pollens qui volent là dans la
rue. Oui.
C'est assez agaçant et irritant, voilà. Faut slalomer.
J'en ai avalé quelques-uns, oui, le vent nous amène ça dans le nez, dans la bouche, un peu
dans les yeux,
et dans les yeux aussi.
Ça picote.
Alors, et en plus, le vent a dû vous pousser ou vous retenir pour arriver jusqu'ici. Vous êtes arrivé à bon port et vous avez dans votre besace quelques films à nous conseiller à regarder à la télé.
Oui, n'oubliez pas, l'ouvreuse essaye de vous conseiller quelques bons films le soir à la télévision pour s'asseoir tranquillement dans son canapé après une bonne journée de travail. On essaye de se détendre dans ce monde de furieux. Et donc, j'ai sélectionné 4 films pour le cinéma, la télévision cette semaine. Et il y aura un conseil Blu-ray qui est tout chaud et qui colle à l'actualité.
Ah, un conseil Blu-ray, tant mieux. Les conseils de Lolo, on adore ça. C'est pour la deuxième partie de l'émission, voire la fin même. Avec nous également celui que tout le monde nous envie, qui a une main d'orfèvre quand il s'agit de mécanique du cinéma, c'est Guillaume Sidom. Bonsoir Guillaume.
Et bonsoir Louis-Marie, bonsoir Laurent, bonsoir à tous et à toutes.
Et vous, comment allez-vous, Guillaume?
Et ça va bien, et justement ce soir on va mettre un peu de légèreté, d'humour aussi dans notre vie.
Ah oui?
Ah oui.
Et avec, oui. On en a besoin. Oui.
Bah ouais.
Il est fâché, le TFC a perdu hier.
Oui, enfin, c'était prévisible.
Il est très triste, oui. Avec nous également ce soir.
Oui. Du coup, mon teaser, j'ai oublié de.
Eh bien oui, on croyait que.
Il n'est pas teaser, il est 19h.
Oui, exactement.
Alors teaser.
Ce soir, un chef-d'œuvre cultissime de la comédie au cinéma et sans doute de la pop culture, même, sûrement même.
Ah, bon. On a un peu plus d'informations à méditer, donc en attendant d'entendre et d'écouter surtout Guillaume Sidom et son retour de manivelle. Quant à celui qui ouvre le tribunal des séries ce soir, Grégory Com nous propose de parler du Night Agent. La saison 3 est à voir sur Netflix depuis février dernier. Qu'en a-t-il pensé? Ben, vous saurez tout dans quelques minutes quand le tribunal des séries s'ouvrira et que notre homme de loi aura revêtu son habit d'avocat ou bien son habit de procureur. Vous verrez et vous entendrez surtout à ce moment-là. Il sera question également ce soir dans le panier de l'ouvreuse, il y a plein de belles choses et donc il sera question de l'affiche de la semaine qu'elle va scruter l'ouvreuse avec vous Laurent Martin. Il sera question bien sûr de reprises, on en a abordé le nombre, à savoir celle qu'il faudra regarder à la télé, mais il y a aussi celle qu'on peut retrouver au cinéma. Et puis on clôturera cette émission par les coups de cœur qu'on a envie que vous alliez voir, ces films, ces manifestations qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. On est ensemble jusqu'à 20h, bon début de soirée avec nous. Allez, approchez-vous de l'écran, nous allons au cinéma. Je dis approchez-vous, en fait mettez-vous à la place que vous préférez, près de l'écran, éloignez de l'écran ou pas, sur le côté, c'est à vous de voir. En tout cas, la projection commence tout de suite.
Quand je pense que je vais te faire ce soir un lapro roulé aux pistaches.
C'est quoi ça?
C'est deux lapros en fait. Farci au foie, au blanc de poularde. avec des champignons, du persil et une petite pointe d'ail.
Je vois pas très bien.
Tu vois pas quoi?
Mais c'est quoi des lapros?
Bah c'est des petits lapins. Bon, je vais faire les courses.
Tu m'en passes?
T'as encore pris des dollars, Nini, j'aime pas ça, hein. Y a trop de fous en ce moment.
Je peux pas demander au Ricain de me payer avec des pascals.
Ouais, mais faut pas non plus qu'il te prenne pour un bureau de change, hein.
T'inquiète pas, si j'entends la sonnerie d'alarme chez Fauchon, je saurais que c'est pour toi. Aussi prendre des risques.
C'est ça, l'amour.
Est-ce que vous avez reconnu ce couple, j'allais dire mythique, oui, pourquoi pas, oui, mythique, oui, effectivement.
Je pense que oui, c'est Nathalie Baye, bien sûr, qui nous a quittés, ouais. Et Philippe Léotard.
Et oui, c'est dans La Balance, un des deux films qui a permis à Nathalie Baye d'obtenir un César de la meilleure actrice. Oui. C'était le film de Bob Swain, c'était en 82. Il est le personnage qu'on entend incarné par... par Philippe Léotard et le souteneur, le maquereau de Nini, qui est le personnage interprété par par Nathalie Baye. Et il y a ces histoires de balance, vous savez ce qu'est une balance, c'est d'ailleurs indiqué au début du film, ce sont ces truands qui ou ces bandits qui sont les indiques pour la police. Et le commissaire incarné par Richard Berry, comme il y en a une de ces balances qui a été tuée, va essayer de faire tomber le grand méchant. Et pour arriver à le faire tomber, il lui en faut d'autres, et en particulier celle incarnée par Nathalie Baye, où il y a aussi Philippe Léotard. Tout ça devient très compliqué. À noter qu'il y a Che Cario aussi dans le film, fait les méchants. Oh, il y en a beaucoup de méchants. Nathalie Baye, je l'ai dit, quatre Césars, hein, deux pour la meilleure actrice dans un premier rôle, et deux pour la meilleure actrice dans un second rôle. Elle a une filmographie assez impressionnante. Elle a commencé avec de très grandes pointures. Elle était avec Godard en particulier, puis d'autres encore, et
François Truffaut.
Oui, bien sûr, François Truffaut, vous avez tout à fait raison. Elle a eu pour partenaire des partenaires prestigieux, Philippe Léotard, avec lequel elle a vécu une histoire d'amour assez extraordinaire. Mais elle a eu des partenaires comme à l'époque.
Alain Delon.
Alain Delon, et puis. Elle a tourné avec des gens comme Jeanne Labrune, Bruno Chiche aussi. Elle a fait une incursion américaine. Elle a joué dans un Steven Spielberg, vous vous souvenez?
Oui. Arrête-moi si tu peux.
Arrête-moi si tu peux.
Elle jouait la maman de Leonardo DiCaprio.
Exactement. Elle a joué aussi avec Claude Chabrol. Elle a tourné pour Tony Marshall. Elle a été aussi devant la caméra de Claude Berry pour L'un reste, l'autre pas. Et puis sa seconde collaboration avec Xavier Beauvois, le petit lieutenant, c'est le petit lieutenant qui lui vaut son deuxième César de la meilleure actrice. Et faire la liste, c'est la liste de tous ces films, je vous disais, c'est compliqué. Elle a été aussi de grands. Elle a été une actrice dans de grands et beaux second rôles. Je vous l'ai dit, puisque elle a obtenu des récompenses grâce à ses rôles. Et puis, vous savez qu'elle est partie finalement jeune. Hein, elle n'avait pas 80 ans. Et ce fameux syndrome de la maladie de Lévy, c'est quelque chose d'assez dur et difficile comme maladie. On ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, nous, on voulait lui rendre hommage. J'ai été peut-être un peu trop impressionné par ce qu'elle était. Et ça m'a fait balbutier. En tout cas, elle a marqué le cinéma français, ça c'est sûr.
Elle a tourné avec Depardieu aussi dans Le Retour de Martin Guerre, qui est passé d'ailleurs à la télé.
Il y a peu de temps. Et dans un grand nombre de, 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 de films. Et au départ, son aura était grande. Elle impressionnait par son physique, sa beauté et surtout la qualité de son jeu. Mmh. Et elle était assez extraordinaire en tant qu'actrice. Puisqu'elle a suivi différentes formations, puisqu'elle a étudié à l'école alsacienne. Alors ça, l'école alsacienne n'a pas à voir avec la comédie, mais après elle a été au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Elle a passé le concours, elle l'a eu, et elle était dans la classe de Jacques Villeray, Jean-François Balmer et André Dussolier.
Ah oui, donc, une belle promotion.
Ouais, une belle promotion, effectivement. Et vous comprenez pourquoi après elle était à l'aise devant la caméra et sur les planches. Sur les planches, ses performances, pourtant remarquables, ne lui ont permis d'être nommée qu'une seule fois au Molière. Peu importe, nous, on l'aime sur le grand écran. Et un dernier clin d'œil avec la musique signée Michel Portal. Pour quel film? Bah, facile, Michel Portal, c'était Le Retour de Martin Guerre. Michel Portal, qui a signé la bande originale du film Le Retour de Martin Guerre, dans lequel on peut voir briller Nathalie Baye. Je parlais du syndrome, c'est pas un syndrome, hein, c'est une maladie à Cordelévy, c'est pire. Donc, et vous le disiez justement, Guillaume, elle a été révélée en fait en 73 dans La Nuit américaine de François Truffaut. Voilà. Rétablissons les choses dans l'ordre. Tout de suite, on retourne au cinéma. On retourne au cinéma et on se prépare à quelque chose de plus réjouissant.
Juliette, moteur. Ah, oh non, coupé.
Monsieur Bakshi.
Oui, monsieur.
Est-ce que vous savez que ce film se déroule pendant l'année 1878?
Oui, je suis prévenu, oui, je sais, oui. Oui, ce film se passe en 78.
Monsieur Bakshi, savez-vous également qu'à cette date, en 1878, on ne portait pas encore de montre de plongée?
Ah oui, ça je le sais aussi, on ne les avait pas encore inventées, n'est-ce pas?
Et quelle heure est-il?
Attendez, il... Oh bon sang.
Ça va, déjeuner tout le monde.
Déjeuner, 40 minutes pour l'équipe technique, une heure pour les acteurs.
Ah, il lui faudra une heure pour savoir ou pour pouvoir enlever sa montre de plongée. Et qui est-il? Cet acteur un peu facétieux, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui fait beaucoup de bêtises.
Ah bien, on va le savoir pour le film The Party, film signé Black Edward, sorti sur vos écrans en 1968 avec Peter Sellers et Claudine Longet, musique signée Henri Mancini, une comédie aussi élégante que chaotique, un bijou d'absurde et de burlesque, à la mécanique infernale et millimétrée, un modèle de comédie visuelle ici, presque pas de dialogue marquant, tout repose sur le corps, le timing, les situations, chaque geste devient un gag, chaque silence, une montée en tension comique, c'est un ballet de chaos parfaitement orchestré. Le film s'ouvre sur un tournage catastrophique, vous l'avez entendu, un figurant, Andri V. Bakshi, déclenche involontairement une explosion monumentale. Tout est dit dès ses premières minutes, le monde est fragile, les conventions ridicules et le moindre geste peut provoquer donc une catastrophe. catastrophe. Mais ce qui pourrait n'être qu'un simple gag devient une déclaration d'intention. Le réalisateur ne filme pas seulement un accident, il filme la mécanique de l'accident. Il en dissèque les rythmes, les silences, les enchaînements. Et chez lui, le burlesque n'est jamais improvisé, il est millimétré. Imaginez donc cet acteur indien un peu maladroit, invité par erreur à une soirée mondaine ultra sélecte à Hollywood. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que cet invité, c'est un véritable ouragan en costume trois pièces. C'est Peter Sellers. Son génie comique est total, physique, instinctif. Il ne joue pas seulement un personnage. Il devient une mécanique vivante du burlesque, héritier direct de Chaplin et Keaton. Il devient ici un corps étranger dans un univers aseptisé. Son innocence est radicale. Il ne comprend pas les codes, il ne joue pas le jeu social et c'est précisément pour cela qu'il le révèle. Chaque geste, chaque regard, chaque silence devient une mise à nu de l'hypocrisie ambiante. Et la soirée, me diriez-vous, eh bien, elle va lentement, mais sûrement, basculer dans un délire total.
Ce qui frappe ici, Guillaume, c'est la précision.
Rien n'est laissé au hasard. Derrière l'apparente improvisation se cache une mécanique comique d'une redoutable efficacité. Une chaussure qui mousse, un bouton qui déclenche une catastrophe, un simple plateau qui va devenir une arme de destruction sociale, un verre renversé, une situation embarrassante, puis deux, puis dix. Et le moindre détail peut faire exploser la situation et peu à peu, le film bascule. Ce qui était discret devient incontrôlable, ce qui était gênant devient catastrophique et la soirée glisse vers une forme d'anarchie totale, une montée en puissance presque musicale. Et les réalisateurs dirigent ces gags comme une symphonie, motifs répétés, variations, crescendo, jusqu'au final totalement délirant, où la maison elle-même semble capituler. Autre aspect fascinant du film, son usage du silence. Les dialogues sont rares, souvent secondaires, les corps, les gestes, les regards prennent le dessus, et on est presque dans un cinéma muet revisité. Edwards rend hommage au grand burlesque, mais avec une modernité visuelle et sonore qui transforme l'expérience. Chaque bruit compte, chaque pause est signifiante, et le timing est une science exacte.
Sous ces airs de comédie légère... Pardon. Ah, c'est les pollens.
C'est les pollens.
Donc...
C'est Don Corleone, là.
Ouais. Sous ces airs de comédie légère, la partie est aussi une satire féroce.
Eh oui, Hollywood y apparaît comme un monde artificiel, obsédé par l'apparence, incapable de gérer l'imprévu. Les invités sont élégants, mais vides, sophistiqués, mais rigides. Et Bakshi, lui, est maladroit, mais sincère. Et c'est justement cette sincérité qui met tout en crise. Le film pose une question simple. Que vaut un monde, finalement, où tout est contrôlé, si le moindre accident suffit à le faire s'écrouler? Ce qui rend The Party si impressionnant, c'est qu'il donne l'illusion du désordre, alors qu'il est d'une précision absolue. Chaque gag est préparé, répété, chorégraphié, rien n'est laissé au hasard. Et pourtant, le spectateur a l'impression que tout pourrait s'effondrer à chaque instant. Et c'est là le paradoxe du film, un chaos parfaitement maîtrisé. Regarder The Party, c'est donc observer, ressentir, anticiper. Le spectateur devient complice. Il voit venir les catastrophes, il les redoute, il les attend et quand elles arrivent, eh bien, elles dépassent toujours les attentes. Un cinéma de la tension comique, une attente permanente du dérapage et puis vient cette fin. Une explosion de mousse, de couleurs, de cris, de désordre absolu, la maison est envahie. Les invités, eux, sont méconnaissables, le contrôle a disparu, mais ce chaos n'est pas négatif, il est libérateur, au contraire, et les conventions tombent. Les masques aussi, ce qui reste, c'est une forme de joie pure, presque enfantine. The Party, c'est plus qu'une comédie, c'est une leçon sur le cinéma, sur le rire, sur le regard, une leçon sur notre obsession du contrôle, peut-être aussi sur la beauté de l'accident dans un monde qui valorise la perfection. Black Edwards nous rappelle une chose essentielle, c'est souvent dans l'erreur que naît la vérité. Alors oui, cette soirée est un désastre, oui, tout y va de travers, mais dans ce désordre total, il y a une forme de grâce et peut-être au fond une vérité simple. Ce n'est pas quand tout fonctionne que la vie devient intéressante, c'est quand tout commence à déraper, parce que parfois le chaos n'est pas un problème, c'est un spectacle, et quel spectacle! À retrouver donc ce dimanche 26 avril 16h à la Cinémathèque de Toulouse. Séance de rattrapage le samedi 27 juin, toujours à 16h, dans le cadre du cycle Pop, visible lui jusqu'au 28 juin prochain. Retrouvez toute la programmation sur la cinémathèquedetoulouse.com et en Blu-ray DVD chez MGM Édition. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Le thème signé Henri Mancini commence par du sitar. Et oui, et oui, et oui, le personnage principal, Bakshi, alias Peter Sellers, est indien. Et donc, après toutes les catastrophes qu'il a provoquées sur le plateau de tournage, on le retrouve dans son appartement en train de jouer du sitar.
Oui. Le fameux Birdie Miam Miam, rappelez-vous.
Birdie Nam Nam.
C'est assez... On va pas raconter le film, mais c'est mythique. Hein. C'est pas mal la fin. Faut pas la manquer.
C'est assez
vous verrez plus votre piscine
de la même façon. Avoir, hein. Et puis, les éléphantaux non plus.
Exactement.
Ne le manquez pas. Rappelez-nous le jour et l'heure de projection, Guillaume Sylvain.
Ce dimanche, 26 avril, 16h, et séance de rattrapage le samedi 27 juin, toujours à 16h, en VO, évidemment.
Ensuite, l'ouvreuse scrute l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin.
À l'affiche cette semaine, pour le meilleur, le nouveau film de Marie Castille, Mention Char. C'est l'incroyable histoire d'amour entre Philippe Croizon, hein, que vous connaissez, un homme privé de ses quatre membres, et de Susanna, une femme qui va lui redonner l'énergie et la possibilité d'avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage. Pierre Rabhin, Lily Fleur-Pointeau et Sandrine Monner sont au casting de ce film. Alors, c'est un film inspiré de la vie de Philippe Croizon, que vous connaissez tous, hein, amputé des quatre membres après un choc électrique alors qu'il démontait son antenne de télévision en mars 1994, et donc de son histoire d'amour avec Susanna Sabine. C'est elle, la femme qui va l'aider à croire en ses rêves et à les réaliser, notamment donc cette fameuse traversée de la Manche à la nage le 18 septembre 2010, à l'issue quand même de 2 ans de préparation intensive, malgré les doutes de son entourage. Alors sa très sportive traversée devient aujourd'hui un film, grâce à Marie Castille, Mention Char, à qui l'on doit les films Bowling et Le Ciel attendra. Alors la difficulté, bien sûr, c'était de trouver un acteur qui a le même handicap que Philippe Croizon. Alors, il fallait faire des effets spéciaux, mais on sait que ça coûte très cher. Alors, ils ont trouvé l'acteur Pierre Rabhin, quadruple amputé lui aussi, et ancien vice-champion de France du 50 mètres brasse dans sa catégorie. Et donc, c'est lui qui joue le rôle de Philippe Croizon. Lily Fleur-Pointeau, qu'on avait vu dans La Garçonne et qu'on voit dans Candice Renoir, est épatante dans le rôle de Susanna Sabineau, donc sa compagne. Louis-Marie, vous avez rencontré la réalisatrice, vous avez mis votre plus beau maillot déjà pour vous jeter à l'eau.
Bah oui.
Et vous avez rencontré la réalisatrice Marie Castille, Mention Char.
Et oui, Marie Castille, Mention Char, et inévitablement, la première question à lui poser, c'est savoir qu'est-ce qui l'a amené à vouloir mettre en image cette histoire assez extraordinaire. Voilà donc sa réponse.
Je ne connaissais pas Philippe, Croizon, et un jour je vois un reportage sur France Télé. Je découvre cet être incroyable, ses exploits, etc. Et je me disais, comme souvent j'ai été inspirée par tout d'un coup des reportages, des articles que je lisais, etc. Je me dis, c'est incroyable, il n'ait jamais eu de film inspiré de sa vie. Alors je l'ai contacté et il m'a répondu. Et puis j'avais la chance qu'il ait vu quelques-uns de mes films. Il était d'accord pour que je vienne le rencontrer. Quand je suis arrivée à Angoulin, j'ai découvert Susanna. Je leur posais plein de questions, etc. Et j'ai découvert leur histoire et tout ce que Susanna avait fait. Et je suis restée plusieurs jours avec eux et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux mettre en lumière c'est cette histoire incroyable. Bien sûr, le courage, la résilience de Philippe, mais aussi
cette histoire d'amour.
Comment cette résilience, ce courage, etc., comment c'était accompagné et encouragé par Susanna.
Alors, vous voyez, en fait, qu'elle raconte l'exploit, enfin, ce film, réalisé par Marie Castille Mention-Char, raconte évidemment l'exploit de Philippe Croizan, à savoir, alors qu'il n'a plus de bras et plus de jambes, traverser la Manche à la nage, le premier de ses exploits, parce qu'après, il en viendra d'autres, et aussi la rencontre avec sa rencontre avec Susanna Sabineau, puisque vous savez qu'il a été amputé des quatre membres à la suite d'un accident. Hein, il déménageait avec sa femme. Il était marié et ses enfants. Et il avait une dernière chose. Il voulait prendre une dernière chose sur le toit de la maison. Cette dernière chose, c'était l'antenne. Oui. Et en fait, l'antenne a touché le fil à haute tension. Et ça aurait pu lui être fatal. Ça ne l'a pas été, mais ça a été fatal à ses deux bras et ses deux jambes. Et donc, après quatre ans de vie dans l'état dans lequel il se trouvait, sa femme a divorcé, n'arrivait plus, ne supportait plus, et pendant plus de sept, huit ans, je vais le dire comme ça, il a vécu seul, a eu quelques aventures, il avait une aide à domicile, forcément. Dans le film, elle est incarnée par Sandrine Bonner, qui joue le rôle de Rossi, qui a été son aide à domicile pendant plus de 20 ans. Hein. C'est assez extraordinaire. Et le film raconte aussi comment il a rencontré Susanna Sabineau, qui est son actuelle épouse, et comment ces deux cœurs se sont alliés, et comment ça lui a redonné cette envie de vivre qu'il avait abandonnée, puisque pendant les 8 ans qui ont suivi son divorce, il passait son temps sur le canapé à regarder la télévision et à s'occuper de ses enfants quand ils étaient avec lui. Donc c'était une vie compliquée et difficile qui a été transformée par l'arrivée de Susanna Sabineau. Alors comment le montre Marie Castille Mention-Char? Raconter une histoire pareille, c'est toujours compliqué. Le sujet dépasse en fait, comment dire, on ne peut être qu'ébloui, que conquis, admiratif de l'histoire de cet homme. Après, comment le montrer? Ça reste toujours.
Et puis, il a toujours le sourire.
Oui.
C'est quelqu'un qui est quand même assez joyeux.
Ça reste compliqué. Donc, le film a quelques failles finalement, dans les interprétations. Pierre Rabine, avoir choisi un homme qui est dans la même condition que le personnage qu'il interprète, oui. Mais c'est pas un acteur. Donc, ça engendre quelques scènes qui sonnent pas vraiment très 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 bien. Néanmoins, Lily Fleur Pointeau, elle incarne avec beaucoup plus de cœur, de force, puisqu'elle est actrice. Susanna Sabineau, celle qui s'en sort le mieux, évidemment, c'est Sandrine Bonner. À leur côté, il y a aussi Corinne Maziero et Pierre Deladonchamp, qui sont respectivement la maître nageuse qui va le former, hein, parce qu'il ne savait même pas nager quand il a décidé de traverser la Manche. Et puis il y a le docteur qui doit le suivre, forcément, qui est incarné par Pierre Deladonchamp. Donc vous voyez, la distribution est quand même à la hauteur du propos, et ce qui est important à souligner quand même, que la puissance intrinsèque de cette histoire qui fait de ce film quelque chose de fort, finalement. Elle démontre donc, Marie Castille Mention-Char, une fois encore, combien la pugnacité elle est vertigineuse, et cette volonté de l'humain face à l'adversité, c'est assez extraordinaire. Alors, je voulais vous faire écouter une dernière chose. Philippe Croizan, quel effet ça lui a fait de le voir à l'écran, de se voir interpréter à l'écran, de voir sa vie. Et Susanna Sabineau était avec lui, sa femme, et Lily Fleur
Lily Fleur Pointeau aussi. Alors, vous allez les entendre intervenir. C'est d'une certaine façon une conversation de famille.
C'était un rêve enfoui dans notre cerveau. Autant les autres rêves, on les a provoqués, on a été les chercher, la traversée de la Manche, les 5 continents, et puis là sur le Dakar. Voilà, on atteint les objectifs. Mais ça, c'était un rêve que j'ai pas cherché à provoquer. Je me suis dit, un jour,
ça viendra.
Ça me paraît évident. Et j'espérais peut-être un peu de notre vivant. et quand c'est vrai, quand Marie Castille a appelé, c'est vrai que je suis très cinéphile, je vais très souvent au cinéma. Et j'avais vu quelques-uns de ses films et je me suis dit, bah ouais, enfin, on peut y aller en toute confiance parce que.
Ça rassure.
Ouais, ça rassure carrément. Et toi, chérie, après, quand.
Ah, moi, c'est énorme, quoi, quand on vient proposer un film sur votre vie. J'y croyais pas au départ. Et puis un jour, les caméras ont commencé à dire, oui, là, c'est réel.
Le plus réel, je pense, c'est quand t'as commencé les avant-premières. Et que tu as commencé vraiment à rencontrer le public.
Surtout quand on a vu le film pour la première fois.
C'est clair.
Là, on s'est dit, voilà, là, c'est concret.
Ouais.
Voyez cette ambiance. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que là où ça marche, c'est que l'acteur Pierre Rabine, qui joue le rôle de Philippe Croizon et Lily Fleur Pointeau, Susanna Sabino, c'est frappant. Comme la ressemblance entre le couple originel est importante. Quand on voit les uns, on voit les autres. Et ça c'est extraordinaire, qui donne justement aussi ce sel à ce film-là.
Petite revue de presse sur ce film. On peut sourire de quelques accents mélos, mais l'émotion finit par l'emporter. Un film bienveillant, chaleureux, qui rappelle qu'aucun rêve n'est hors de portée, selon Le Figaro. La Croix a bien aimé aussi. Un formidable récit de résilience. Bémol pour les fiches du cinéma, si le récit force le respect, la mise en scène et la direction d'acteur, vous en parliez, peinent à convaincre. Et puis Télérama n'a pas aimé un film feignant, sans aucun recul sur son héros et qui aligne les clichés sur le dépassement de soi. Enfin, moi je dirais c'est plutôt la critique de Télérama qui est feignant, parce que faire ce qu'il a fait, quand même, c'était pas un feignant, hein, Croizon, excusez-moi, mais...
C'est ce que je disais à propos du sujet, c'est quand le sujet dépasse lui-même le film. On ne peut être que conquis et séduit.
La réalité dépasse la fiction.
La fiction, et à ce moment-là...
Le film a des défauts, mais vraiment...
Voilà. Il y a des mots à choisir, voilà. Peut-être, n'est-ce pas,
exactement,
Laurent ?
Exactement, vous choisir les mots.
C'était
les rames. Il a un mental de fou, ce garçon. Enfin, respect, quoi. À l'affiche aussi, cette semaine, La Poupée. De Sophie. C'est le premier film de Sophie Beaulieu, avec Zoé Marshall, Vincent Macaigne et Cécile de France. Rémi, qui est sans famille, ne s'est jamais remis de sa dernière séparation. Depuis, il s'est mis en couple avec une poupée. C'est encore plus simple, un peu comme vous, Guillaume.
Ouais,
elle s'appelle Audrey.
Il y a moins de problèmes, pas de facture,
pas de migraine, etc. Le jour où Patricia, une nouvelle collègue, arrive dans l'entreprise de Rémi, Audrey va mystérieusement prendre vie. Et oui, après plusieurs courts-métrages, Sophie Beaulieu, élève de l'atelier de scénario de la Fémis, se lance donc dans l'aventure d'un premier long, puisant son inspiration dans un reportage télé, hein, sur des, vous savez, ces détenteurs de mannequins en silicone, hyper réalistes, imaginés selon tous nos désirs, ça vient du Japon, je crois. En visionnant ce reportage, Sophie Beaulieu s'est souvenue des métamorphoses d'Ovide, hein, que vous avez lu il y a très longtemps, et du mythe de...
Pas d'Ovidie, hein.
D'Ovide. Et du mythe de Pygmalion, qui tombait amoureux de sa statue, rappelez-vous, rendue vivante par Aphrodite, la déesse de l'amour dans la mythologie grecque. Donc, bref, elle propose ici une comédie pour le moins originale, dans laquelle Rémi noie son chagrin d'amour en se lassant encore perdu dans une relation forcément à sens unique, avec donc cette poupée à l'apparence humaine. Alors, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, si celle-ci, comme je lis, ne prenait un jour véritablement vie, affichant en plus un premier degré des plus désarmants. Donc, on sourit souvent, on ne rit jamais trop, il faut le dire, hein, devant cet homme qui ne s'est toujours pas remis de sa précédente rupture. Alors, le film offre une réflexion intéressante sur la solitude et ses éventuels tourments, sur les préjugés, puis le « qu'en dira-t-on » aussi, sur la relation homme-femme, et surtout sur la manière dont certains hommes objectifient leur compagne sans forcément s'en rendre compte. Dommage toutefois que le scénario effleure plus ces sujets qu'il ne les explore véritablement. Voilà, reste un personnage central assez attachant, très bien campé par Vincent Manquet, qui est vraiment très, très bien comme d'habitude, et bien secondé par le casting féminin. A noter que La Poupée marque les retrouvailles de Vincent Macaigne et de Cécile de France, qui s'étaient déjà donné la réplique dans Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost en 2023. Revue de presse sur ce film. Pour son premier long métrage, Sophie Beaulieu part d'un postulat original pour traiter de sujets dans l'air du temps, le patriarcat et la charge mentale. Selon Le Figaro, Le Parisien a bien aimé aussi une comédie maligne et féministe. Pareil pour La Croix, Vincent Macaigne, Zoé Marchal et Cécile de France jouent joliment, de manière à la fois simple, pétillante et attachante. Cette histoire de mœurs, bémol pour les fiches du cinéma, suffit-il d'être une réalisatrice pour échapper au conservatisme masculin, prétendument féministe et moderne? Cette comédie à l'écriture banale et peu inspirée échoue à exploiter son idée de départ et se prend les pieds dans les messages contradictoires. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir L'Arnaqueuse de Wilfried Meyrance avec Josiane Balasco. On peut voir À voix basse de Leïla Bouzid, c'est l'histoire de Lilia qui retourne en Tunisie pour éclaircir les circonstances de la mort de son oncle. Un film que vous pouvez voir à l'ABC Toulouse ou au Régent à Saint-Gaudens. On peut voir Les Fleurs du Manguier, voilà un très joli titre, d'Akio Fujimoto au CGR Rodez. Le film d'horreur de la semaine, c'est ça, Marama, de Taratoa Stapard, qu'on peut voir à l'American Cosmographe. On peut voir aussi Samsung, La Nuit des Arbres, de Mahamat Saleh Haroun à l'American Cosmographe. On peut voir Michael, d'Antoine Fuqua, c'est bien sûr la biographie de Michael Jackson. Deux documentaires pour finir, Nous l'Orchestre de Philippe Béziat, au CGR Montauban de Paris ou à l'ABC Toulouse. Et pour finir, Un Lugar Más Grande, un documentaire de Nicolas Desfossé à l'Utopia Bordeaux Rouge.
Rappelez-vous, c'était au début des années 80, 82, 83, l'album Thriller allait renverser les charts et autres top 50 et Michael Jackson allait révolutionner le vidéoclip. Rappelez-vous, rien que pour la chanson Thriller, le clip durait 20 minutes et racontait une histoire. Et là, pour Billie Jean qu'on écoute en ce moment, je l'avais trouvé fascinant, la mise en scène où il avançait sur des dalles qui s'allumaient au fur et à mesure qu'il marchait. C'était assez extraordinaire et on était dans ce tempo remarquable. On tape des doigts, on tape des mains plutôt. Oui, Guillaume.
Il me semble que c'était un clip que MTV ne voulait pas au début.
De vous parler de quel clip?
Le premier de
vous parler. Thriller.
Ouais, Thriller, exactement.
Ça durait peut-être.
Il avait pas le format inédit, parce qu'à 20 minutes, c'est pratiquement un court-métrage. Et qui raconte une histoire et la transformation du personnage incarné par Michael Jackson en vampire, en mort-vivant. C'était des morts-vivants.
Après, tourné en 35 mm.
C'était un film plus qu'un clip, oui, carrément. Un clip de court-métrage. Toujours est-il que nous, on écoute Billie Jean et lui avance sur ces dalles qui s'allument. Eh bien, allons retrouver notre homme de loi des séries dans son tribunal qui ouvre tout de suite pour parler de The Night Agent, saison 3.
Je déclare l'audience ouverte.
My name is Peter Sutherland. I'm a night agent. I made a promise to protect people.
Cher Louis-Marie, ce soir je vais vous parler de la saison 3 de la série The Night Agent. Alors j'ai hésité jusqu'à même ce moment. J'ai hésité à vous parler de cette saison et même de cette série pour une simple raison, j'avais oublié de quoi ça parlait. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes fatigué, vous êtes énervé, vous êtes... Non, enfin si, je suis énervé de base, mais toujours, ça vous le savez. Mais en fait, c'est une série, j'ai fini de la regarder la saison 3 la semaine dernière, donc les souvenirs devraient être assez frais. Et c'est une série dont j'avais particulièrement apprécié la saison 1. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, au fur et à mesure, il n'y avait pas grand-chose de vraiment marquant dans cette série. Et je l'avais consommée et oubliée aussi vite comme on irait au fast-food, où on est content sur le coup, puis on a oublié presque ce qu'on a mangé, et 2 heures après, on a encore faim, alors qu'on a pris son stock de calories pour le mois. Et c'est peut-être ça qui va être intéressant dans le décryptage de cette saison 3 de The Night Agent. Alors, de base, le concept est très intéressant de The Night Agent. De base, c'est Peter Sutherland et un agent un petit peu mis sur la touche qui est dans les sous-sols de la Maison Blanche, qui doit garder un appel potentiel sur un téléphone qui peut sonner, mais ça ne sonne jamais. Et le jour où ça sonne, évidemment, en fait, c'est un appel pour aider des night agents, des agents un petit peu hors normes, qui peuvent avoir un besoin d'exfiltration ou autre. Évidemment, très vite, il va être mis à contribution dans un complot plus grand que lui, et il deviendra un night agent total, même d'élite et tout ce que vous voulez. Bon, ça c'est la saison 1. Alors il empêche complot sur complot sur complot. C'est déjà le premier problème, c'est qu'à un moment il y a tellement de complots, de complots, de complots que sans dire qu'on ne sait plus où on va, parce qu'en fait finalement c'est pas si compliqué que ça, mais la série tente de complexifier des choses simples, et puis à un moment bon, on se dit, bon, ah tiens, un nouveau traître, oui, ça m'étonne pas. Presque à un moment, quand on regardait la série avec mon épouse, on se disait, tiens, qui va trahir cet épisode-là? Mais la saison 1 était intéressante, elle se suffisait à elle-même, elle était intéressante. Arrive la saison 2, alors là, patatras, ça devient bêtement compliqué. Pas complexe, compliqué. Ensuite, ils veulent garder comme actrice son love interest de la première saison, alors qu'en fait, elle n'avait aucun intérêt scénaristique à être là. Et on voit la difficulté qu'ont parfois certaines séries, ben, en fait, pour aider la narration à se débarrasser de certains acteurs, même si c'est dramatique de le dire comme ça. Et donc, c'était lourd, c'était la saison 2 a déçu énormément. Et arrivé la saison 3 avec la promesse que le concept serait renouvelé. Alors, c'est quand même un peu embêtant qu'on doit se renouveler au bout de la saison 3. Et je vais vous lire le synopsis officiel. Peter Sutherland est chargé de retrouver un jeune agent du Trésor ayant fui à Istanbul avec des informations sensibles après avoir tué son patron. S'ensuit une série d'événements qui amènent Peter à enquêter sur un réseau de financement tout en évitant des tueurs à gages jusqu'à retrouver contact avec une journaliste implacable. Évidemment, ils vont trouver des secrets enfouis du gouvernement. Franchement, c'est pas mal. Les acteurs sont bons. Et l'intrigue pourrait paraître intéressante, mais en fait, ils tentent de singer 24 heures chrono sans la puissance du concept de 24 heures chrono, donc qui était en temps réel, sans le charisme de Kiefer Sutherland. C'est intéressant de voir que le nom du héros de Night Agent fait écho au vrai nom de l'acteur qui faisait Jack Bauer dans 24 heures chrono. Et au final, il y a des retournements de situation, on se voit un petit peu souffler en disant « Oui, bon, il est traître, ah, il est plus traître, il est agent double, il est agent triple, il est agent quadruple. » C'est un peu lourd. Et on finit cette saison-là en se disant « J'ai pas passé un moment désagréable, mais j'ai pas été marqué, j'ai pas été emporté, j'étais pas transporté par ce que je voyais. » Et c'est un peu le problème aujourd'hui de beaucoup de séries, surtout sur Netflix. C'est qu'est-ce que ça veut raconter? Quel est le message? Et donc, on a, et c'est pas du tout le cas de cette série, on a certaines séries sur Netflix qui ont un cahier des charges wokiste, c'est pas le cas de cette série. Mais elle a le cahier des charges classique de la série d'action. On a presque l'impression que le scénario aurait pu être fait par une IA. On peut se poser la question. Et en fait, il n'y a pas d'âme. Alors, j'ai bien envie de voir la saison 4, de voir où ça nous mène. Le personnage principal est attachant. Mais au final, on termine The Night Agent en se disant « Je sais même plus ce que j'ai regardé. » Donc voilà. Donc, chers auditeurs, votre temps est précieux. Je pense que je ne vous conseillerais pas de regarder la saison 3 de The Night Agent. C'est pas désagréable. C'est pas agréable non plus. Et finalement, on peut dépenser notre temps à bien mieux. Je vous remercie.
C'est pas agréable et c'est pas désagréable non plus. C'est compliqué à se repérer et à faire son propre jugement par rapport à The Night Agent. Toujours est-il que notre homme de loi des séries, Grégory Combe, n'a pas été totalement convaincu, et c'est le moins qu'on puisse dire par cette série qu'on peut voir sur Netflix. C'est Robert Duncan qui a écrit la bande originale de cette série The Night Agent, à voir donc sur Netflix.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Vous l'avez reconnu, c'est le Pimble Wizard, interprété par Elton John. Nous sommes en 1975, quand Ken Russell, ce cinéaste anglais qui avait brillé par son outrance et son mauvais goût dans la plupart des films qu'il avait tournés, et voilà qu'il s'attelle à un monument de l'histoire du rock, à savoir cet album concept écrit par les Who, qui s'appelle Tommy, tout simplement. L'histoire de cet enfant d'abord, puis de cet adolescent et de ce jeune adulte qui se retrouve par un choc émotionnel à la fois sourd-muet et aveugle. Néanmoins, il arrive à faire des choses extraordinaires, comme à jouer au flipper et battre le Pimble Wizard, le sorcier du flipper, qui s'en sort complètement, qui devient complètement fou. Cette scène est complètement folle. Le sorcier du flipper, c'était bien sûr, et c'est toujours, Elton John qui l'interprétait. Un casting assez ahurissant dans ce film, puisqu'il y a forcément des chanteurs. C'est un film musical, puisque c'est un disque qui est mis en scène, et il y a forcément des musiciens et des chanteurs qui sont dans le film. Bien sûr, les Who, ils sont au grand complet. Roger Daltrey. Il y a également Case Moon, le batteur. John Entwistle, qui est le bassiste. Et
Et bien sûr, Pete Townsend, qui est le guitariste. Alors, Townsend et Entwistle ne jouent pas de personnages. Ils apparaissent comme des récitants. Et sinon, à leur côté, il y a Anne-Margrethe et Oliver Reed. Anne-Margrethe qui obtint cette année-là le Golden Globe pour le personnage qu'elle interprétait. Elle joue le rôle de la mère de Tommy. Mais donc, aux côtés d'Elton John, il y a Eric Clapton. Il y a Jack Nicholson. Lui, il n'est pas musicien, mais il est là. Il joue le rôle du docteur spécialiste de la santé mentale, Pete Townsend, Tina Turner, Arthur Brown. Vraiment un film complètement dingue qu'on peut voir à la Cinémathèque. Alors si vous dépêchez ce soir, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, et à 21h c'est à la Cinémathèque. Sinon il faudra attendre le 4 juin pour pouvoir le revoir. Qu'y a-t-il d'autre? Bien, il y a une histoire de club. Alors il y en a pas mal des clubs qui ouvrent cette semaine. Le Fight Club, de celui de David Fincher avec Brad Pitt et Edward Norton. Là aussi, une drôle d'ambiance dans ce film-là, et on n'est pas à l'abri des surprises, surtout le twist final. On n'en dira pas plus. Le Breakfast Club, celui-là est signé John Hughes et de 1985. C'est l'histoire de cinq lycéens qui sont collés et qui vont devoir passer une journée entière le samedi dans leur établissement pour la retenue et leur prof, enfin non, le principal de l'établissement, le chef d'établissement, leur donne un devoir à faire. Alors ils doivent rester tous les cinq, ils doivent se taire, pas parler, et une dissertation de mille mots sur le sujet qui pensez-vous être et expliquer pourquoi. Voilà, et le film raconte ça, et c'est un film cultissime aux États-Unis, portrait d'une génération. Il y a des Batman aussi, avec Batman le défi, pour revenir en 92, le deuxième film avec Tim Burton, là où on découvre le pingouin, Danny DeVito et Catwoman... l'inimitable Michel Pfeiffer. Alors, je vous ai pas dit que le Fight Club, parce que je m'emporte, mais vous pouvez le voir dans sa version originale jeudi en VF, hein, c'est ça, au Pâté Labège, mardi 28 avril aussi au Pâté Labège à 19h30, et au Pâté Wilson à 19h le même jour, c'est-à-dire le mardi 28 avril, dans sa version originale. Le Breakfast Club en VO dimanche 26 avril à 19h30 au Pâté Labège. Tim Burton lundi 27 avril, c'est le Batman le défi à 21h, puis le Dark Knight le lundi 27 avril en VO. Il y a également Porco Rosso, et puis on finit par ce que propose le VO de Murray. Ça, on reconnaît le thème, forcément. La leçon de piano de Jane Campion, première palme d'or féminine. Voilà, j'ai empiété sur votre... Vous allez devoir faire vite, Laurent.
Le ciné à la télévision, ça commence dès ce soir sur Nouveau 19 à 21h10 avec Mars Attack de Tim Burton, une parodie loufoque et mordante, un hommage aux séries de science-fiction des années 50. Vendredi français, 21h05, Flick Story de Jacques Deray avec Alain Delon. Pour info, Jacques Deray a dirigé Alain Delon à 9 reprises dans des films à tonalité policière. Dimanche France 2, 21h, on pourra revoir Papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiré, un film de 1983, hein, avec Clavier, Lamotte, Junot, toute l'équipe du Splendide. À noter que le rôle de Papy était destiné à Louis de Funès, mais l'acteur est mort en janvier 83, c'est donc Galabru qui s'y colle. Lundi, Arte, 21h, on pourra voir Alamo de John Wayne, un film de 1960, une fresque épique et spectaculaire et lyrique. Le Cossier Blu-ray qui colle à l'actualité sera Gasoil, un film de 1955, un film de Gilles Grangier avec Jean Gabin et Jeanne Moreau, l'histoire d'un camionneur qui croit écraser un homme. Alors que va-t-il se passer? Une belle collection prestige avec le Blu-ray, DVD, livret, photo, 32€ aux éditions Coin de Mire.
Est-ce que votre plan est bien en place?
Et l'on retrouve l'Orchestre de Paris, dirigé par Daniel Harding, pour cette répétition de la symphonie numéro 8 de Mahler, qu'on peut entendre dans Nous l'Orchestre de Philippe Béziat, qui sera mon coup de cœur. Et vos coups de cœur, messieurs, Quels seront-ils ?
Les coups de cœur pour le meilleur, la poupée et les fleurs du manguier.
À voix basse, nous l'orchestre et le Festival des cinémas indiens jusqu'au 26 avril.
Et pour moi aussi, je rajouterai à voix basse, c'est le Festival des cinémas indiens qui a commencé aujourd'hui et qui s'achèvera donc dimanche 26 avril. Vous retrouverez Vanessa Bianchi qui va vous parler du cinéma indien avec talent et elle a beaucoup de choses à vous raconter. Merci messieurs.
Merci à vous.
Bonne soirée. Mercredi. Pardon
Laurent de vous avoir fait sprinter, je ne recommencerai plus. À 20h, Nathalie Cardon, salut.
Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, la vie des chrétiens en Midi-Pyrénées. Des invités en direct, l'actualité de l'Église dans toute la région.
Vivante Église.